Radio Okapi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. L'impact des interventions des casques bleus de la MONUSCO reste très significatif malgré les défis sécuritaires persistants dans le territoire de Djougou. C'est le constat de James Swan qui s'est rendu jeudi à Fataki. Il a assuré que la MONUSCO poursuivra ses efforts aux côtés du gouvernement pour le retour d'une paix durable dans la province. Deux membres du cabinet du chef de l'État en compagnie du directeur général de la CGT ont visité les projets des rocades. Les trois personnalités ont parcouru tous les 73 kilomètres de ces projets sous une pluie battante sur une note de satisfaction. L'invitée de ce journal est Brigitte Hénon, représentante du HCR au Burundi. Elle nous parle du retour à Uvira des réfugiés congolais en provenance du Burundi ce jeudi 23 avril 2026. Brigitte Hénon revient également sur les critères de rapatriement et les indicateurs sécuritaires dans les zones de retour. Encore une fois, bonjour à tous. Le chef de la MONUSCO, James Swan, s'est rendu ce jeudi à Fataki, dans les territoires du Djougou, pour s'imprégner des actions menées par les casques bleus en matière de protection des civils dans cette entité affectée par des groupes armés. Selon son constat, l'impact de leurs interventions reste très significatif malgré les défis sécuritaires persistants. Il a assuré que la MONUSCO poursuivra ses efforts aux côtés du gouvernement pour le retour d'une paix durable dans la province. Isaac Remoyope, reportage.
Les territoires de Djougou comptent le plus grand nombre de contingents de la MONUSCO en Ituri, avec au moins 5 bases militaires, notamment Jina, Djaïba, Ro et Bayo. Ce casque bleu assure la protection directe des centaines de milliers de déplacés installés dans des sites situés à proximité de leur position. Au cours d'une réunion tenue ce jeudi avec les responsables de ces sites, il a été souligné que la présence de la force de la MONUSCO a permis de préserver la vie de nombreux habitants, notamment dans des zones où les FARDC sont absentes ou en sous-effectif. Les casques bleus mènent également des patrouilles pour contenir les menaces des groupes armés dans les différentes localités ciblées par ces milices, ainsi que sur la RN27, afin de garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Cependant, la population déplore la persistance de l'insécurité dans la région, qui a entraîné un nouvel afflux de déplacés. Elle appelle les chefs de la MONUSCO à renforcer son appui au gouvernement pour éradiquer les groupes armés et permettre le retour des milliers de déplacés dans leur village d'origine. Le chef de la MONUSCO a, pour sa part, réitéré l'engagement de la mission onusienne, conformément à son mandat, à répondre aux aspirations des populations meurtries par plusieurs années de violence des groupes armés. Des retours de Fataki, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans les territoires de Walikale au nord Kivu, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres alerte sur la présence persistante des engins explosifs non explosés dans les zones civiles. Selon le responsable de l'antenne locale de cette structure, un engin explosif de guerre, identifié comme un mortier 182, a été découvert ce mardi dans la parcelle d'un habitant à Moubi, à environ 35 km de Walikale Centre. Il aurait été abandonné lors de la progression de la rébellion de l'FC-M23 sur l'axe Walikale-Kisangani, dit-il. Clément Kubuyandole appelle la population à la prudence et demande de ne pas manipuler les objets suspects. Écoutons-le dans ses propos recueillis par Bernardine Diambo.
Nous lançons un appel vibrant à toute la communauté, quiconque pouvait tomber sur un engin explosif improvisé, de nous contacter. Étant donné que la Walikale constitue une banque de prolifération des armes légères et de petits calibres et leurs munitions, ne dit pas son nom. Nous lançons une sonnette d'alarme à tous nos habitants de ne pas toucher, en cas de quoi faire appel à nous pour que nous puissions, dans la mesure du possible, trouver des solutions palliatives avec le concours des ONG qui sont chargées de déminage. Je m'en vais préparer, sensibiliser tous nos habitants qui sont au niveau des localités comme Kibati, Mpeti, Minjenje, Rusamambo, Buleusa, Kateku, Kanune, que ces entités-là sont minées. lorsqu'ils trouvent qu'un engin de guerre passe immédiatement à nous appeler pour que nous puissions consigner les ONG qui s'en chargent.
En ce jour à Kinshasa, les députés français Aurélien Touche est porteur d'un projet de création d'une académie francophone dans la capitale congolaise. Il a dévoilé cette ambition au sortir d'un entretien avec le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba. Ce parlementaire français a expliqué que cette structure aura pour mission de promouvoir la langue française en RDC. Aurélien Touche a précisé que cette académie vise également à mobiliser en faveur non seulement de la paix, mais aussi des valeurs des droits humains entre les pays francophones de la région. Ces propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons échangé sur plusieurs sujets. Nous avons notamment parlé d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur comme député français, de porter une proposition d'académie francophone dont le siège pourrait se trouver ici à Kinshasa, car pour moi, la capitale du monde francophone est Kinshasa. C'est dans République démocratique du Congo qu'il y a le plus de locuteurs francophones, et cette langue doit pouvoir maintenant trouver finalement un centre névralgique qui soit ici en Afrique, et ça ne peut être à mon sens qu'à Kinshasa. Et cette académie, pourquoi je suis venu en parler au ministre des Droits humains, doit porter sur les aspects d'évolution de la langue française, mais doit aussi porter sur les valeurs et la question des droits humains. Aujourd'hui, le monde francophone est meurtri parce qu'il se passe dans son cœur, à l'est de la République démocratique du Congo, avec un voisin qui est officiellement à la tête de la francophonie officielle, le Rwanda, et qui agresse le plus grand pays francophone au monde, qui fait des atteintes aux droits humains dans le plus grand pays francophone au monde. Et cette académie francophone, elle viserait finalement à dire que le monde francophone doit être celui qui est le plus exemplaire sur la paix et les droits humains. Moi, comme parlementaire français, je suis prêt à m'engager avec d'autres collègues pour que la reconnaissance de génocide soit enfin adoptée par l'Union européenne.
Pour sa part, le ministre des Droits humains a salué cette initiative, estimant qu'elle s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à renforcer la justice transitionnelle et à plaider en faveur de la reconnaissance des crimes graves et des génocides commis en RDC, notamment ceux attribués au Rwanda. Dans la province du Maniema, l'Union des jeunes du Maniema interpelle les députés provinciaux afin qu'ils puissent capitaliser leurs vacances parlementaires en recueillant les desiderata de leurs électeurs. D'après cette organisation citoyenne engagée pour la bonne gouvernance, les élus du peuple considèrent ces moments comme un temps de loisir, ce qui ne favorise pas le bien-être de la population et le développement de cette province. Suivez un extrait de leur déclaration lu par Djunga Unia Chakambulu Jean et choisi par Florence Kizalunga.
L'Union des jeunes du Maniema rappelle que le mandat des députés provinciaux est un mandat de représentation du peuple et non un privilège individuel. Les députés sont tenus, en vertu de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, de rendre compte régulièrement à leurs électeurs, notamment par les consultations publiques, des réunions de restitution et des rapports écrits sur les vacances parlementaires. L'IGMA rappelle que la période des vacances parlementaires n'est pas une période de repos privé, mais un temps légalement affecté à la proximité avec la base, à l'écoute et à la collecte des préoccupations de la population. Tout député qui n'effectue pas un séjour effectif dans sa circonscription électorale et ne dépose pas un rapport de vacances parlementaires contrevient aux exigences du règlement intérieur et doit être rappelé à l'ordre voire sanctionné conformément au texte. L'IGMA appelle la population du Maniema, en particulier les jeunes, à s'approprier des mécanismes de contrôle citoyen pour exiger les comptes à l'air.
Le conseiller spécial en matière de sécurité et l'assistant particulier du chef de l'État ont visité ce jeudi la route des Rocades en compagnie du directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT. Cachemire Eberande, Paul Moulenda et Nico Nzao Nzao ont parcouru tous les 73 kilomètres de ce projet sous une pluie battante sur une note de satisfaction. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces trois personnalités ont entamé leur visite au quartier Bouma où le site érosif a été maîtrisé. À cet endroit, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a fait le topo complet du projet en expliquant les étapes franchies par ces travaux réalisés par l'entreprise chinoise Siske SA et ses sous-traitants. Il cite, entre autres, les 73 km en cours de revêtement des ouvrages de franchissement dont trois ponts allant de 180 à 90 mètres de portée et l'opération d'expropriation de plus de 3000 personnes impactées par ces projets. Nico Nzaou Nzaou a expliqué que les tracés de Rocade passent par des collines qui ne devraient pas être occupées par des habitations.
Tout le monde doit s'approprier de ce bijou. Parce que si aujourd'hui, on ne fait rien sur cette route-ci, vous allez voir que dans quelques jours, on va encore construire des maisons, qu'on va encore venir détruire, qu'on va encore expropier. Et bien, tout l'argent qui pourrait servir des travaux ailleurs va encore être consommé ici.
À l'issue de cette visite d'inspection, l'assistant particulier du chef de l'État a salué le travail abattu. Paul Mundela.
Il faudrait que cet ouvrage soit livré, que les citoyens puissent palper du doigt et vivre cette merveille.
Les rocades sud-est et sud-ouest font partie du lot des projets que l'Agence congolaise des grands travaux tient à livrer d'ici fin 2027.
Dégradé et impraticable sur son tronçon compris entre la place Sainte-Thérèse Njili et la station, la route d'Okolo complique le quotidien des habitants de ces coins de la capitale. Hausse du coût du transport et conditions de circulation de plus en plus pénibles. Les riverains dénoncent l'abandon de cet axe stratégique qui relie les communes d'Njili et Kimbanseke. Reportage de Magloire Landou Mayemba.
Nid de poules par-ci, boue et flaque d'eau par-là, c'est l'image que présente la route d'Okolo. Une situation qui complique la circulation, provoque les ralentissements des véhicules et impacte directement le coût du transport. Et pourtant, cet axe reste indispensable pour les usagers de la route comme le témoignent ces motocyclistes.
La situation de la route depuis Sainte-Thérèse jusqu'à Dokolo est vraiment très difficile. La route est en très mauvais état, il est difficile de passer. Quand il pleut, la situation devient encore pire. La route se dégrade davantage et il devient presque impossible de circuler.
Cette dame est fatiguée de payer plus d'argent pour le transport à cause du mauvais état de la route.
Ici à Dokolo, la route est vraiment en mauvais état. Je fais ces trajets chaque jour. Le transport est passé de 500 francs à 1000 francs et peut atteindre 1500 à certaines heures. Nous souffrons beaucoup et nous dépensons trop à cause du mauvais état de la route. La route est complètement dégradée. On réhabilite les routes secondaires alors que la route principale n'est toujours pas aménagée. Qu'on pense d'abord à améliorer cette route pour que nous puissions vivre dans de meilleures conditions.
Contactées, les autorités communales assurent que des dispositions ont déjà été prises par le gouvernement pour la réhabilitation et la modernisation de cette artère. En attendant, les habitants continuent de subir les conséquences d'une route devenue impraticable.
Revenons à Nitouri avant d'aller plus loin. Dans cette province, le pourboire constitue une partie non négligeable du salaire des employés des hôtels, des supermarchés, des bars et des restaurants. Certains employés affirment recevoir, selon les jours, entre 15 000 et 50 000 francs congolais de pourboire, de l'argent reçu de certains clients satisfaits de la gentillesse et de l'aide apportée par les hôtesses, caissières ou réceptionnistes de ces établissements, de l'argent qui vient compenser des salaires généralement dérisoires, malgré des journées de travail pouvant aller au-delà de 14 heures. Notre reporter Christelle Aichi s'est penchée sur ces phénomènes. Voici son reportage.
Avec l'expansion des bougnias, les supermarchés, hôtels, bars ou restaurants poussent comme des champignons à travers la ville. Certains jeunes, filles comme garçons, y trouvent des menus emplois à la caisse comme hôtesse d'accueil dans les rayons ou encore comme réceptionniste. Mais les salaires ne sont pas au rendez-vous. Ceux-ci varient entre 50 et 120 dollars, rarement 150 dollars le mois. L'une des motivations de ces employés reste la motivation récite de certains clients, c'est-à-dire les pourboires. Cet argent leur permet de subvenir à leurs besoins que les maigres salaires ne parviennent pas à combler. Une dame témoigne.
Certains jours, je peux recevoir des clients 30 000 francs, même 50 000 francs. Avec cet argent, je paie mon transport, mes unités, j'achète aussi à manger et bien d'autres choses que mon petit salaire ne permet pas de faire.
Mais tous les clients ne sont pas aussi généreux. Si certains donnent des motivations à ses employés, d'autres, en revanche, ne les font pas. Les raisons avancées sont multiples.
Moi, je ne peux pas donner. Toutes les agents de là sont payés pour ça.
On n'est pas censé les donner quelque chose parce qu'on vient juste acheter. Ils ne dépendent pas de nous, ils dépendent de leur patron.
Quelque part, ça peut sonner comme une corruption.
Laissez-vous des temps à temps de pourboire aux employés des supermarchés, restaurants ou des hôtels. Bounia, Christelle Aichi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le rapport sur les violences survenues en Tanzanie après la présidentielle du 29 octobre 2025 a été présenté ce jeudi 23 avril à Dar es Salaam. Rédigé par une commission d'enquête nommée par le gouvernement, il fait état de 518 morts durant les événements qui ont suivi les scrutins, un chiffre bien inférieur aux milliers de victimes dénombrées par l'opposition et plusieurs ONG qui accusent les autorités de vouloir minimiser la répression.
L'invité.
Notre invitée est Brigitte Henault, représentante du Haut Commissariat aux réfugiés au Burundi. Elle nous parle du retour à Uvira des réfugiés congolais en provenance du Burundi ce jeudi 23 avril 2026. Dans cet entretien avec Jean Kassami, Brigitte Henault revient également sur les critères de rapatriement et les indicateurs sécuritaires dans les zones de retour. Suivez.
Madame Brigitte Henault, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi.
Confirmez-vous le démarrage de l'opération de rapatriement volontaire de la première vague des réfugiés congolais vivant au Burundi?
Je confirme effectivement que nous avons lancé aujourd'hui le HCR et le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la RDC. Nous venons de lancer aujourd'hui le premier convoi pour les retours facilités des réfugiés congolais qui vivaient ici au Burundi.
De quelle partie du Burundi proviennent les 770 réfugiés qui rentrent en première position au pays ce jeudi?
Comme vous le savez, ça fait depuis décembre que les réfugiés sont arrivés ici. Nous avons reçu plus de 100 000 personnes en provenance de l'est du Congo, mais 66 000 parmi eux avaient été transférés à Ruigi, au site de Busuma. Et donc, c'est parmi ces réfugiés de Busuma qui ont manifesté l'intérêt de rentrer chez eux que nous avons commencé à aider pour le retour. Aujourd'hui, nous avons un convoi de 470 personnes qui sont en train de partir, essentiellement autour de la ville de Uvira, mais également vers l'axe Fizi.
La plupart de ces réfugiés avaient tout abandonné derrière eux quand ils fuyaient la guerre. Leur survie va être assurée de quelle manière maintenant qu'ils sont de retour?
Nous donnons du transport à partir du Burundi, mais c'est à l'arrivée au Congo que ces personnes pourront bénéficier de ce que nous appelons un petit paquet retour pour leur permettre de se réintégrer dans la sécurité et dans la dignité. Et ça sera fait par le HCR et les autres partenaires, bien sûr, au niveau du Congo, notamment le PAM, qui donne également une assistance pour 2 mois de rations alimentaires. Et du côté du HCR, il y aura une assistance en cash pour les adultes comme les enfants, mais également un appui pour la réinsertion dans le service éducatif pour les enfants.
Comment vous procédez pour les rapatriements, sachant que parmi ces réfugiés, l'on dénombre des catégories de personnes vulnérables?
En termes de catégories privilégiées, comme vous dites, ça sera essentiellement ceux qui se présentent volontairement pour se faire enregistrer pour le départ. Et également, ça doit être des gens qui rentrent dans des zones sécurisées. D'autres catégories, nous avons reçu des fonctionnaires de l'État qui ont demandé à être rapatriés parce qu'ils doivent aller reprendre service. Donc ceux-là aussi, s'ils se présentent volontairement, on va pouvoir les inclure. Et également des élèves, parce qu'il y a des élèves de classe terminale qui sont ici et qui ne voudraient pas rater leur année scolaire. On va également les faciliter le plus rapidement possible. Mais bien sûr, ça va se faire à celui qui se présente le premier, c'est celui qui sera également facilité.
Que savez-vous des conditions sécuritaires dans les milieux de retour de ces réfugiés?
Pour le moment, le HCR et le gouvernement ne faciliteront le rapatriement ou le retour volontaire que vers des zones qui sont dites sécurisées. Parce que, effectivement, pour les réfugiés qui rentrent, on ne veut pas que ce soit des gens qui vont rentrer dans des zones où ils vont encore aller vivre dans des camps de déplacés. Et donc, ça doit être les gens qui rentrent dans des zones sécurisées qui sont facilitées. On ne va pas faire le rapatriement pour ceux qui rentrent vers des zones qui ne sont pas encore sécurisées au niveau de la RDC. Et ces informations, nous coordonnons avec les équipes tant du HCR, mais également du gouvernement du Congo, pour nous informer des endroits qui sont aujourd'hui dites sécurisés. Et donc ça, c'est vraiment ce qui prévaut, parce que on ne veut pas que les réfugiés puissent rentrer et ensuite qu'ils ne peuvent pas continuer jusque dans leur destination finale, dans leur milieu de résidence habituel. Et donc c'est ça le critère pour ce rapatriement, le caractère volontaire, mais également le retour dans la sécurité et la dignité. Donc voilà ce que je peux vous partager comme information pour le moment.
Brigitte Henault, représentante du HCR au Burundi, merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
C'était notre invité Brigitte Hénaud qui s'entretenait avec Jean Kassami. Voilà qui met fin à cette édition du journal parlé du matin, coordonnée et supervisée par Gilles Mystère Bilandan Koumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.